Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose que nous commencions sans trop tarder. Nous avons donc entendu hier après-midi quatre interventions qui nous ont rendu compte d'expériences extrêmement diverses. Et nous allons aujourd'hui entrer encore davantage dans le cœur du sujet, puisque je vous rappelle que l'intitulé de ces journées 2013 est « Droit au pluriel des images, droit à l'image ». Nous allons donc avoir une matinée très juridique, avec deux interventions, la première faite par une juriste que je vais vous présenter dans un instant, la seconde par Aurélie Bosque qui nous parlera de la manifestation Marseille-Provence 2013. Donc tout d'abord, une intervention de maître Géraldine Salor qui est docteur en droit, auteur d'une thèse sur la propriété collective des œuvres soutenue en 2007 devant l'Université Paris 2. Qui est également titulaire d'un DEA en propriété intellectuelle et qui travaille au sein d'un grand cabinet parisien depuis 2010, le cabinet Grand Rue. Elle a intitulé son intervention « L'image saisie par le droit ». Alors je vais lui céder sans plus attendre la parole. Et bien évidemment, je pense que nous aurons de très nombreuses questions à lui soumettre par la suite.
Alors, bonjour à tous. Donc, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de l'image, puisqu'effectivement, laissez un petit peu le micro, dans les bibliothèques et dans tout centre de documentation, vous êtes amené à utiliser énormément de photographies et de documentation sous forme d'images et de supports photographiques, que ce soit des supports analogiques ou numériques. Et la question de son exploitation, de son utilisation par l'institution est évidemment une question extrêmement importante pour vous. Donc la question qu'on va essayer de se poser ce matin, c'est comment le droit saisit cette image et comment il gère son exploitation et les droits qu'il confère au titulaire de l'image sur celle-ci pour pouvoir l'exploiter et en faire ce qu'il souhaite. Donc la question de l'image n'est pas une question très très simple en droit, nous n'avons pas un régime juridique qui s'applique de manière claire et unique à l'image en tant que telle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une catégorie de biens qui s'appelle image. On a plusieurs régimes juridiques qui envisagent le rapport du droit à l'image et qui le gèrent d'une manière spécifique. Et donc toute la difficulté pour nous, c'est que l'image recoupe en réalité deux réalités, si je puis dire. Tout d'abord, l'image en tant que bien, en tant que tel, donc la photographie, le dessin, la peinture que l'on peut avoir, que nous nommons image, et qui va se voir appliquer à un régime juridique spécifique. Et deuxièmement, l'image au sens du reflet qui est représenté sur ce support. Donc une photographie d'une personne ou un dessin d'une personne, d'un bien ou d'une chose. Ces deux réalités ne se rencontrent jamais en droit, c'est-à-dire qu'on les gère de manière totalement autonome, mais par contre elles vont se superposer, créant ainsi des régimes juridiques qui vont être appliqués parallèlement l'un à l'autre et qui vont être créateurs de droits et d'obligations pour les propriétaires d'une image support physique, donc d'une photographie. On va prendre cet exemple parce que c'est le plus simple et on va le garder pendant toute cette intervention. Donc, ces deux régimes juridiques vont se rencontrer en permanence et vont interférer l'un dans l'autre sans jamais s'annihiler l'un l'autre. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre et c'est ça qui est relativement compliqué. Donc, pour poser cette question de comment le droit se saisit de l'image, on peut le prendre sous deux angles. Tout d'abord, comment une institution telle qu'une bibliothèque peut exploiter une image, c'est-à-dire réutiliser une image pour la mettre aux dispositions d'un public ou de ses chercheurs ou de ses étudiants, ou éventuellement organiser des expositions, etc., ou la transférer à d'autres bibliothèques ou centres de recherche. Donc ça, c'est une première question. Quels sont les droits pour vous de pouvoir exploiter les images que vous avez dans votre patrimoine au titre de l'institution? Et la deuxième question, c'est quand vous êtes propriétaire d'une image, donc d'une photographie, Quels sont, vous, les droits qui vous sont reconnus pour interdire l'exploitation de l'image, pour en limiter son exploitation par des tiers? C'est-à-dire, vous, en qualité de propriétaire de ce bien matériel, comment vous pouvez interdire à autrui de la réutiliser, de la prendre en photographie également, ou de la mettre sur un blog, sur Internet, etc. Donc, c'est les deux versants de la question qui se posent. Comment exploiter et comment interdire autrui, donc comment faire respecter votre droit sur cette image? Alors, je vais commencer par comment vous pouvez exploiter les images que vous avez dans votre patrimoine. Là, il y a plusieurs choses qui doivent être envisagées. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'image, donc si on prend l'exemple de la photographie, c'est d'abord un bien matériel. C'est d'abord une chose que l'on peut appréhender en tant que telle. Or, vous avez probablement un droit de propriété sur cette image, mais à partir du moment où vous allez choisir de la rendre publique, vous n'avez plus la possibilité d'interdire à quiconque d'entrer en contact avec elle. Donc si vous décidez de l'exposer, si vous décidez de la mettre à disposition du public, une fois que vous avez mis à disposition cette image, entre guillemets, votre droit s'arrête ici. On verra un petit peu plus loin que pour tout ce qui est institution publique, c'est un petit peu plus complexe, mais grosso modo, une fois que vous avez décidé de la rendre accessible, vous la transmettez à un public et ce public y accède dans la manière dont vous lui avez donné accès. La question est de savoir, est-ce que pour autant, parce que vous avez des images dans votre patrimoine, vous êtes libre de les exploiter comme vous l'entendez? Eh bien, la réponse est non, pour une raison simple, c'est que le seul droit qui reconnaît l'image en tant que bien, c'est le droit de la propriété intellectuelle, et qui est un droit qui a vocation à protéger les intérêts de l'auteur, donc l'auteur d'une photographie ou d'un dessin, pour en contrôler toutes les exploitations qui vont être faites durant sa vie. Donc, la première difficulté, c'est lorsque vous avez ces images, bien que vous soyez propriétaire au sens physique de l'image, que vous l'ayez dans vos caves ou dans vos archives, vous n'aurez pas nécessairement la propriété intellectuelle de l'image. Donc, de la photographie prise en tant qu'œuvre de l'esprit, donc ce que le juriste appelle une œuvre de l'esprit, je reviens tout de suite sur ce que c'est, et qui va pouvoir, cet auteur ou le titulaire des droits, vous interdire, ou en tout cas contrôler, les exploitations que vous pourrez faire de cette photographie. Donc, première chose importante, ce n'est pas parce que vous avez la propriété physique d'un fond d'image que vous avez la liberté et le droit de les exploiter en tant que tel. Donc effectivement, je me pousse un petit peu, d'accord. La première chose, là je ne sais pas si vous m'entendez, si c'est bon ? Bon. Effectivement, une photographie, il est fort possible qu'elle constitue une œuvre de l'esprit. Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit ? C'est pas parce qu'on a une photo qu'elle est nécessairement protégée par un droit de propriété intellectuelle. Il y a un certain nombre de critères à remplir, et qui sont tout d'abord que cette photographie doit être exprimée dans une forme qui est perceptible au sens. Donc le sens, c'est vraiment les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Donc, pour une photographie, c'est le sens de la vue, mais surtout, cette photographie doit être originale. Si elle est originale, son auteur aura un ensemble de droits qui lui confère un monopole d'exploitation de cette œuvre. Qu'est-ce qu'une photographie originale ? Est-ce que toute photographie est par nature originale ? Le législateur nous dit qu'il n'y a pas de catégorie de biens ou d'œuvres de l'esprit qui sont par nature originales et donc par nature protégeables. Donc c'est pas parce qu'on a une photographie, qu'elle soit d'art ou pas, qu'on la considère sur le marché comme étant une photographie d'art, qu'elle sera nécessairement protégée par le droit de la propriété intellectuelle. C'est vraiment du cas par cas. Les photographies qui seront protégées sont celles qui, en fait, laisseront transparaître la personnalité de l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de son auteur. Concrètement, parce que c'est un petit peu abstrait de parler d'empreinte de la personnalité, ça veut dire que, à travers l'œuvre, l'auteur doit avoir fait des choix qui sont d'ordre nécessairement esthétique, sachant que l'esthétisme ne renvoie pas ici à la notion de beau, mais plutôt à l'esthète au sens grec du terme. Donc c'est vraiment ce qui n'a pas de vocation utilitaire. D'accord ? Donc on cherche une finalité strictement d'ornementation, donc esthétique. Et c'est d'avoir fait des choix qui sont propres à l'auteur et qui traduisent sa propre perception des choses, et qui, traduisant sa propre perception des choses, ont pour finalité de le laisser transparaître sa personnalité à travers son œuvre. C'est comme si l'œuvre était une sorte de continuité de lui-même. Et donc, cette œuvre lui est nécessairement propre. C'est pour ça qu'en droit d'auteur, contrairement à d'autres domaines du droit, l'originalité ne désigne jamais la nouveauté. Si vous mettez deux photographes devant un même sujet, chacune des deux photographies pourra être absolument originale, parce que chacun aura sa perception personnelle du sujet qu'il est en train de prendre en photo. C'est ça l'originalité de l'œuvre de l'esprit, et c'est ça qui va conditionner l'octroi d'une protection sur cette image. Alors, vous pouvez vous dire, mais à chaque fois que je prends une photographie, j'ai nécessairement une originalité. Toute la difficulté est effectivement pour un juge, parce que c'est souvent devant un juge que la question se pose, d'apprécier s'il y a eu ou non originalité. Et le juge nous dit, ce n'est pas le simple fait de faire des choix, c'est le fait de faire des choix dans une vocation esthétique et de pouvoir démontrer que ces choix vous sont absolument propres. Donc par exemple, une photo de vacances, ça va être une photographie la plupart du temps banale. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai cherché à faire en faisant une photographie de vacances, c'est un souvenir. C'est pas une photo qui a une vocation esthétique. Donc c'est vraiment dans cette recherche de laisser transparaître sa perception du monde à un moment donné qui va importer dans l'œuvre de l'esprit pour caractériser l'existence d'une protection. Alors il faut savoir qu'en plus pour la photographie, le législateur a mis extrêmement longtemps à reconnaître la protection par le droit d'auteur, puisque le droit d'auteur c'est un droit qui est relativement récent, la première loi date de 1957, et c'est un droit qui a été fait vraiment pour protéger ce qu'on appelait les arts purs, les arts nobles, donc la peinture, l'architecture, la littérature et la musique. Et on l'a petit à petit étendu à d'autres domaines artistiques, mais il faut savoir que la photographie n'est protégée en France que depuis 1986, ce qui est quand même extrêmement récent. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, on a considéré qu'une photo, c'était simplement quelqu'un qui avait appuyé sur un bouton. Et finalement, on s'est rendu compte avec le temps que, évidemment, non, c'est pas simplement quelqu'un qui a appuyé sur un bouton, et que ce qui pouvait caractériser une originalité, ça allait être la mise en scène, le choix de filtre, le choix d'un sujet en tant que tel, le choix d'une lumière, et aujourd'hui, avec la photographie numérique, la façon dont vous allez retravailler cette image. Donc, dans votre fonds d'archives, vous pouvez avoir des images qui vont être de plusieurs types. Vous allez avoir des photographies qui sont des photos d'art et pour lesquelles il y a assez peu de doutes sur le fait qu'elles sont protégées par un droit d'auteur. Et vous allez avoir d'autres photos qui vont être des photos plus de type souvenir ou de type actualité, des photos de presse ou des photos qui ont vocation à être des témoins d'une époque, des témoins de quelque chose. Il n'est pas évident que cet ensemble de photographies soit protégé par un droit de propriété intellectuelle. Et la difficulté, c'est que personne ne pourra jamais vous dire « bah oui, votre fonds photographique est protégé ou n'est pas protégé ». Personne ne pourra vous l'affirmer, puisque comme c'est du cas par cas, il faudrait prendre photo par photo pour se poser la question de l'originalité. Et c'est pour ça que je vous dis que la plupart du temps, la question se règle en réalité devant un juge quand il y a un conflit de droit sur l'exploitation d'une image. Donc la meilleure technique, c'est de partir du principe qu'il y a un risque et qu'il y a peut-être un droit d'auteur sur ces photographies et que donc il vaut mieux partir de ce principe-là et se prémunir de ce que les droits d'auteur vont entraîner plutôt que d'ignorer cette question. Quand la photographie est protégée par un droit d'auteur, ça veut dire que l'auteur de cette photographie s'est vu reconnaître dessus deux catégories de droits, des droits moraux que je ne vais pas particulièrement envisager aujourd'hui, donc qui sont des droits de protection de sa personnalité, mais également un monopole d'exploitation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monopole d'exploitation ? Il y a essentiellement deux droits, qui est le droit de reproduction de la photo et le droit de représentation. La reproduction, c'est le droit de reproduire au sens propre, c'est-à-dire de fixer l'œuvre sur un nouveau support. Donc typiquement, pour une photographie, ça va être la numérisation d'une œuvre. Ça, c'est de la reproduction. Ça va être le fait de prendre en photo une œuvre préexistante. Ça, c'est une reproduction, etc. Et la représentation, c'est le fait de la recommuniquer à un nouveau public. D'accord ? Donc la représentation, c'est un droit qui est relativement compliqué parce que quand on parle de communication publique, il n'y a pas un seul public. En réalité, on considère qu'il y a autant de représentations que de communications immédiates à un public. Pour vous donner un exemple, quand vous allez au théâtre voir une représentation théâtrale, vous avez une première communication au public qui est la représentation en tant que telle au moment où vous y êtes, devant le public qui est dans la salle. Vous allez avoir France Télévisions qui filme cette représentation théâtrale pour la diffuser à la télévision. Vous avez une reproduction qui est le passage sur bande numérique et vous allez avoir une seconde représentation qui va être le fait de rediffuser cette pièce de théâtre devant le public de France 2 qui regarde la télé à 11h le soir. Et si France Télévisions veut rediffuser une nouvelle fois cette pièce de théâtre parce que ça a été un succès, qu'elle veut le diffuser le jeudi soir à 20h, finalement, eh bien nous avons un nouveau public qui est le public de 20h le jeudi soir. Et ce public-là n'était pas le public du dimanche soir à 11h. Et si elle veut le mettre en libre accès sur Internet, etc., etc., etc. Et en fait, ce sont donc des représentations successives, de même qu'il y a des reproductions successives. Et donc l'auteur a fondamentalement le droit de contrôler chaque reproduction et chaque représentation de son œuvre. Et donc tout tiers doit nécessairement obtenir l'autorisation de l'auteur pour toute reproduction et pour toute représentation de son œuvre. Ce qui veut dire que quand un auteur, quand on reconnaît qu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, donc une photographie est protégée par le droit d'auteur, le seul moyen pour une bibliothèque, un musée ou n'importe quel autre tiers de pouvoir exploiter ce fonds photographique, soit en organisant une exposition, soit en le mettant à disposition des usagers de la bibliothèque, des chercheurs, etc., c'est d'obtenir l'autorisation de l'auteur. Parce que le simple fait de le mettre à disposition est une représentation, puisque vous permettez à un nouveau public d'accéder à l'œuvre et d'être en communication avec cette œuvre. Donc la première difficulté, c'est que lorsque les œuvres sont protégées par le droit d'auteur, le fait de les posséder physiquement dans vos archives ne vous donne pas pour autant le droit de les diffuser et de les communiquer à un public. Et il y a eu pas mal d'affaires comme ça sur ces questions d'exploitation de fonds de photographie, et notamment il y a eu un très célèbre arrêt dans le domaine juridique qui était une affaire Brancusi. Donc c'est ce sculpteur qui avait légué par testament à l'État, au titre du Musée national d'art moderne, la totalité de ses œuvres. Sauf que le testament ne prévoyait que la légation des biens physiques, donc des sculptures au sens matériel du terme. Donc il les a données au musée avec effectivement un droit de représentation pour organiser des expositions et éventuellement les prêter à d'autres musées. Par contre, les légataires universels avaient conservé les droits d'auteur. D'accord ? C'est-à-dire que le monopole d'exploitation restait dans le giron de la famille Brancusi, qui a donc continué à les exploiter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des moulages, il y avait des moules qui sont demeurés à la famille, et la famille a fait réaliser des moulages, ce qui n'a pas du tout avantagé le Musée national d'art moderne, qui lui n'avait pas du tout envie qu'il y ait des moulages qui se baladent dans la nature et des reproductions de cette œuvre, ce qui effectivement diminuait la valeur, lui, des sculptures qu'il avait. Donc il a assigné les héritiers en leur disant: moi je suis propriétaire au sens physique de ces sculptures, vous ne pouvez plus les exploiter. Et bien ils ont perdu devant la Cour de cassation, donc le musée a perdu devant la Cour de cassation, parce que les héritiers étaient restés seuls titulaires des droits d'auteur sur l'œuvre. Et donc ils étaient seuls à pouvoir contrôler les exploitations. Et donc on a justifié le fait qu'ils pouvaient faire autant de moulages qu'ils voulaient de ces œuvres, les commercialiser, les exposer, les vendre à d'autres musées, sans que le Musée d'Histoire nationale d'Art moderne ne puisse s'y opposer. Donc ça, c'est typiquement un exemple assez frappant de l'interférence du droit d'auteur sur l'exploitation des œuvres par les musées. De même, vous avez régulièrement des procès qui s'ouvrent parce que l'État achète assez régulièrement des œuvres, notamment à l'étranger. Et il y a sous le ministère de la Culture, un étage qui est consacré à ces œuvres qui sont acquises par l'État. Et il faut savoir que la plupart d'entre elles, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas exposées? Eh bien tout simplement parce que l'État n'a pas acquis les droits d'auteur dessus et qu'il ne peut pas les exposer. Alors comme le monopole d'exploitation est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'il dure, il couvre les œuvres, le temps de la vie de l'auteur, plus 70 ans post-mortem. Au-delà de cette période, on dit que les œuvres tombent dans le domaine public. Tomber dans le domaine public, ça veut dire qu'elles deviennent libres de droit et que toute personne peut les exploiter sans avoir besoin ni d'obtenir une autorisation ni de payer une redevance. Parce que le problème au-delà de l'autorisation, c'est bien souvent la redevance, évidemment, qu'on vous fait payer pour pouvoir exploiter. Et donc l'État les acquiert physiquement, donc déjà à des prix extrêmement élevés, et en fait il attend la fin du monopole d'exploitation pour pouvoir les exploiter tel qu'il l'entend et ne pas avoir à obtenir l'autorisation des héritiers la plupart du temps et de payer des redevances aux héritiers qui peuvent être extrêmement élevées. Ce qui explique que certaines œuvres ne sortiront que dans quelques dizaines d'années puisqu'avant on ne pourra pas les exposer. Donc la première question, c'est donc pour exploiter ses œuvres, il faut tout d'abord vérifier que l'on a l'autorisation de l'auteur et que l'autorisation correspond à l'exploitation que l'on veut en faire. Et pour ça, il faut faire des contrats de cession qui, dans le droit d'auteur, doivent être extrêmement précis, qui doivent être nécessairement écrits et qui doivent être extrêmement précis. C'est-à-dire que toutes les exploitations envisagées d'une œuvre doivent être précisées dans le contrat. On ne peut pas se contenter de clauses qui vous disent « je vous autorise à l'exploiter sous la forme que vous voulez ». Ce genre de clauses sont nulles et donc n'ont aucune force opposable aux parties. D'accord ? Donc on a l'obligation de faire des contrats de cession qui sont extrêmement précis, ce qui est assez contraignant, parce que du coup, quand un institut veut acquérir de telles images et les exploiter, est obligé dès l'origine de penser à tous les types d'exploitation que vous pourrez avoir de cette image pour pouvoir, évidemment, l'utiliser comme vous l'entendez. Donc ça, c'est la première difficulté qui se pose pour l'exploitation d'un fonds d'image et d'un fonds de photographie. La deuxième difficulté, qui est cette fois liée à ce qu'on appelle véritablement le droit à l'image et qui est lié au droit des personnes ou des biens qui sont pris en photo ou qui sont représentés sur une photo et qui est donc la deuxième couche de droit qui se rajoute sur cette question. Donc effectivement, vous pouvez avoir plusieurs types d'images. Vous allez avoir des photographies de personnes et vous allez avoir des photographies de biens. Alors, je vais commencer par les photographies de personnes. Chaque individu dans son patrimoine personnel, dispose de droits qui sont attachés à sa personne. C'est le droit d'avoir un nom, c'est également tous les droits de la personnalité qui vont être le droit d'être reconnu sous son nom, qui vont être le droit de voter, d'être reconnu en tant qu'être humain, d'être reconnu sous son sexe, etc., etc. Tous ces droits sont des droits attribués à la personne à sa naissance. Et dans ces droits, on trouve le droit au contrôle de son image, son droit à l'image. Le droit à l'image, c'est un petit peu une continuité du droit au respect de la vie privée. On considère que votre image, bien que vous vous offrez évidemment aux gens qui vous regardent, il n'empêche que c'est une bulle de vous-même, c'est une représentation de vous-même et qu'à ce titre, elle exprime votre intimité et qu'exprimant votre intimité, vous avez le droit de la protéger. Donc la difficulté, c'est que quand on prend une photo de quelqu'un, eh bien on va représenter cette image et on va quelque part s'approprier cette image pour la mettre sur un nouveau support. Eh bien pour représenter cette image, il va falloir obtenir l'autorisation de la personne qui est prise en photo et que, un petit peu comme en matière de droit d'auteur, la personne a sur son image un droit d'autorisation de fixation, donc elle doit vous autoriser à prendre une photo, mais elle a aussi un droit de regard sur les exploitations qui sont faites de son image. Donc, c'est pas parce qu'une personne vous aura autorisé à vous prendre en photo qu'elle vous autorise par autant à l'exploiter par ailleurs, dans un magazine, dans une exposition, ou pour faire une BD, ou ce qu'on veut. D'accord ? Donc c'est là encore deux droits qui sont extrêmement forts. Alors, est-ce que c'est systématique de devoir obtenir l'autorisation de la personne que l'on prend en photo ? Si ça avait été le cas, ça deviendrait extrêmement compliqué, on ne pourrait quasiment plus prendre de photos en personne, de personnes en photo. Donc, quand on est dans un espace privé, la question ne se pose évidemment pas, on est dans l'intimité de la vie privée, que la personne soit seule ou prise dans un groupe, dès lors que l'on est dans un espace privé, on doit nécessairement obtenir l'autorisation de la personne pour la prendre en photo et pour exploiter cette photographie derrière. La question se pose plus lorsqu'on est dans un espace public. Espace public, ça va être évidemment la rue, mais ça va également être tous les lieux fermés où le public a librement accès. Donc ça va être aussi bien une bibliothèque, un musée, un ministère, l'école, que le festival de Cannes, etc., un bar, un restaurant, etc. Tous ces lieux où toute personne peut librement accéder, d'accord ? Par opposition à votre chez vous ou à chez vos amis, qui sont des lieux privés. Est-ce que le simple fait de se trouver dans ces lieux justifie que l'on puisse vous prendre en photo ? Et c'est là que la jurisprudence nous dit, non, le simple fait d'être dans ce lieu-là ne permet pas, ne vous autorise pas à prendre une photo de n'importe qui sans lui demander l'autorisation. Et la règle qui a été dégagée par la Cour de cassation, c'est de dire, si cette personne est fondue dans un groupe, que vous prenez par exemple une photo de foule, ou alors qu'elle a un rôle extrêmement accessoire sur cette photo, par exemple, je suis place des terreaux, je prends une photo, évidemment que dans la journée il y a des gens, je vais nécessairement prendre des gens en photo. Si cette personne est accessoire à ma photographie, c'est-à-dire qu'un coup d'œil suffit pour voir qu'elle n'est pas le sujet de ma photo, là, j'ai le droit de prendre cette photo et j'ai le droit d'exploiter cette photo. Ce qui veut dire que tout propriétaire successif de la photographie au sens physique pourra exploiter cette photo sans avoir à se demander si la personne que l'on voit au fond à gauche pourra ou non s'opposer à l'exploitation de cette photo. À l'inverse, si la personne est prise seule et que donc elle est le sujet de ma photo, ou alors qu'elle est prise au milieu d'un groupe, mais qu'au milieu de ce groupe, elle est vraiment centrée, elle est vraiment considérée comme le centre de la photo et qu'elle ne peut pas être jugée comme étant accessoire à mon sujet principal, eh bien dans tous ces cas de figure, il faudra nécessairement obtenir l'autorisation de la personne pour prendre la photo, mais également pour l'exploiter. Ce qui veut dire que cette fois, pour les propriétaires successifs de la photographie, la difficulté va être que moi demain on me prend en photo dans le cadre d'un lieu public. J'autorise la personne qui m'a pris en photo à l'exploiter et à la mettre sur son blog pour rendre compte des journées Henri Martin. C'est pas parce que j'ai autorisé cette personne à la mettre sur son blog que j'ai autorisé un autre tiers à la reproduire, à la prendre et à la mettre lui sur son blog. Vous voyez, mon autorisation ne vaut que pour l'exploitation que l'on m'a demandé d'autoriser. Elle ne vaut pas pour toute forme d'exploitation. Donc, il n'y a pas une autorisation unique qui est donnée à l'exploitation. Il n'y a que des autorisations spécifiques pour une exploitation donnée. Et c'est là la difficulté, c'est que notamment toutes les photos que l'on trouve par exemple sur Internet et sous lesquelles il y a marqué « libre de droit », le problème c'est qu'en réalité elles sont très souvent pas du tout libres de droit et que lorsqu'elles représentent des personnes, eh bien vous avez l'obligation d'aller rechercher la personne et d'aller rechercher son autorisation. Ou de voir, alors c'est là où vous avez certaines banques d'images qui sont mieux que d'autres au niveau de la prévention, qui vont vous dire dans leurs conditions générales d'utilisation, j'ai obtenu l'autorisation pour ce type d'exploitation, donc vous pouvez librement faire ce type d'exploitation, donc par exemple prendre une photo et la mettre sur un blog ou la mettre dans un magazine, etc. Mais pour tout le reste, eh bien c'est votre responsabilité d'aller rechercher l'autorisation qui vous permettra de l'exploiter. Et tout ceci a notamment pour but, eh bien évidemment, d'empêcher des exploitations que vous n'avez pas pu contrôler et envisager. Vous avez par exemple eu des cas de figure, ça a été assez fréquent, c'était dans les années 90, où quand vous participiez à un jeu concours, on vous demandait une photographie. Et quand vous avez gagné, on vous disait bah, « merci d'envoyer votre photographie, comme ça on publiera un petit communiqué de presse avec votre photo et vous signez une décharge autorisant toute forme d'exploitation de la photographie ». Eh bien, cette photographie, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est à plusieurs reprises retrouvée vendue en fait à la publicité, donc aux entreprises de publicité, et ce sont des gens, alors ça a été une campagne de pub particulière, où les photographies des gens étaient déformées. Et donc vous avez des gens qui se sont retrouvés sur des abribus avec leur tête déformée, alors qu'ils n'avaient absolument pas donné cette autorisation, et ça venait en fait de la photo qu'ils avaient envoyée au jeu concours. Donc ça, typiquement, c'est strictement impossible. Vous devez nécessairement obtenir l'exploitation, le droit, l'autorisation pour faire ce type d'exploitation. Il y a quand même une exception à ce principe, parce que c'est vrai que c'est relativement contraignant et que ça limiterait notamment un type de photographie qui est la photographie d'actualité. Si à chaque fois que vous prenez une photographie d'une actualité ou d'un événement important, ça nous empêcherait d'accéder à une source d'information qui serait essentielle. Or, en matière de liberté publique, on considère que les droits ont une hiérarchie entre eux. Et quand on a des droits qui se confrontent, toute la question va être de savoir lequel est plus important que l'autre à un moment donné. Et la Cour de cassation a considéré que, certes, la protection de la personne et de son intimité était quelque chose d'extrêmement important, mais que la liberté de l'information et la liberté de l'accès à l'information, c'est ce qui garantissait une société démocratique et qu'il était essentiel de préserver cette liberté d'accès à une information complète, claire, pour tout citoyen. Du coup, on a créé une exception qui est que, lorsque la photographie est prise dans le cadre d'une information d'actualité, dans ce cas précis, on ne peut plus s'opposer à l'exploitation de l'image. Le cas qui a donné lieu, enfin le premier cas de figure qui a donné lieu à cette jurisprudence, c'est les attentats de 95 et notamment les photographies, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avaient été prises pour l'attentat de Saint-Michel. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photographie qui était parue en première page de Paris Match, où en fait on voyait la place Saint-Michel à Paris, avec, donc c'était le chaos, et avec une femme qui était assise ensanglantée et complètement hébétée devant la bouche du métro. Donc cette photo a fait le tour du monde, et la femme qui est sur cette photo, au départ, ne s'y est pas du tout opposée parce que c'était un acte de témoignage. Et comme c'est une photo qui est ressortie, notamment pour les anniversaires, à terme elle a cherché à s'y opposer en disant « Moi ça me renvoie au traumatisme que j'ai vécu, je veux interdire cette photographie. Et donc là, on s'est posé la question de, est-ce qu'on peut interdire cette photographie? Et donc, la première chose qui a été dégagée à cette époque, c'est que on ne peut pas interdire la publication d'une telle photo lorsqu'elle est d'actualité et lorsqu'elle sert à témoigner d'une actualité. Mais ça veut dire que la photographie doit être le témoin d'une actualité et non pas être l'objet elle-même, évidemment, de l'actualité. Sinon, ça justifierait la publication de toutes les photos de starlettes qui ont fait des sextapes, ce qui est évidemment pas du tout possible. Donc là, la photographie doit être un témoignage d'une actualité. Et donc, elle ne pourra être exploitée sans autorisation que le temps que dure cette actualité. Une fois que l'actualité disparaît, évidemment, on retombe dans un système d'autorisation. Donc, c'est une exception qui est évidemment temporaire. D'accord ? Donc, l'exception d'actualité est elle-même temporaire. C'est ce qui a justifié qu'on a pu voir des photographies d'attentats, qu'on peut voir aujourd'hui des images notamment de manifestations, sans qu'on puisse faire interdire la photographie, ou des images éventuellement de guerre civile, etc. Sachant que la notion d'actualité a quand même été relativement élargie au fil du temps et qu'aujourd'hui rentre dans la notion d'actualité tout ce qui est fait de société. Par exemple, un accident de la route, on a pu considérer que c'était un fait de société parce que un article qui publiait une photo d'un jeune qui était décédé à scooter, c'était d'actualité parce que c'était pour traduire et pour exprimer un souci de société par rapport à la violence routière et au nombre de morts sur les routes. Donc dans ces cas-là, on a considéré que c'était un fait d'actualité au sens très large, et que donc la famille n'a pas pu faire interdire la photographie. La seule limite qui a été posée à cette exception d'actualité, c'est la notion d'atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est ce qui a justifié que l'on interdise toute photographie du préfet Erignac lorsqu'il a été tué. Donc où il y a, les premières photos, c'était des photos où on le voyait mort avec des balles dans le corps ou avec le linceul couvert de sang, et également les photos de Mitterrand sur son lit de mort. Donc là, c'est la dignité de la personne humaine, c'est-à-dire que même l'actualité ne peut pas justifier que l'on porte atteinte à la dignité de la personne humaine et notamment d'une personne morte. Alors, c'est des notions à géométrie variable, il n'y a pas de définition précise, et là aussi c'est du cas par cas, c'est au juge de l'apprécier. Et il y a quand même assez peu de cas où la dignité de la personne humaine a été reconnue, parce que comme ça vient limiter un droit fondamental qui est la liberté d'information et la liberté de l'accès à l'information, on considère que ça doit véritablement rester à la marge. D'accord ? Mais on peut quand même, dans les photos extrêmes, donc on imaginerait par exemple tout ce qui a été les photos du 11 septembre, les gens qui sautaient par les fenêtres, par exemple, la presse s'est auto-censurée, mais on pourrait imaginer que ces images-là auraient été interdites devant un tribunal, parce que c'est des photos choquantes et que c'est effectivement pas nécessaire de montrer ça pour témoigner d'une actualité. D'accord ? Autre exception au droit à l'image, au cas où vous pouvez exercer votre droit à l'image et qui, lui, est plus général, c'est lorsque vous êtes vous-même dans l'exercice d'une activité dite publique. Qu'est-ce qu'une activité publique ? Eh ben, là, typiquement, je suis en train de vous faire une conférence. J'ai choisi, évidemment, de faire cette conférence et je suis dans l'exercice de ma fonction. Donc, étant dans une activité publique, je me suis par moi-même engagé à me mettre en communication avec un public et donc j'autorise par principe la prise de photo et l'exploitation de cette photo dès lors qu'elle est liée à l'événement public. Donc, la publication sur le blog de l'ENSIB, sur le site internet ou toute communication autour, je ne pourrais pas l'empêcher. Alors, l'activité publique, ça va s'entendre aussi bien des personnes qui, en fait, font de leur vie une vie publique. Donc, typiquement, tout ce qui est star ou personnalité célèbre ou personnalité du monde politique qui font de leur vie quelque chose de public. D'accord ? Et donc, on considère que plus vous choisissez de vous livrer au public, plus votre vie privée se réduit à une peau de chagrin et moins vous pouvez avoir de contrôle de votre image. Typiquement, et ça c'est des décisions qu'on voit tomber assez souvent devant les tribunaux, toutes les starlettes qu'on voit dans les magazines toutes les semaines, celles qui sont vraiment toutes les semaines dans les magazines, quand elles font des procès pour atteinte au droit à l'image, perdent la plupart du temps parce que le juge considère qu'elles ont fait le choix de se livrer au public et que donc elles en assument les conséquences. Et que dans ces cas-là, leur vie étant publique, elles ne peuvent plus s'opposer à l'exploitation de leur image. Alors là, on est dans des cas évidemment extrêmes, puisqu'on parle plus de starlettes, mais Pour vous donner à l'inverse un exemple, il y a eu un arrêt Jacques Brel qui était assez connu à l'époque. Enfin, pas Jacques Brel, hein, mais l'arrêt, évidemment. Et l'arrêt Jacques Brel, c'était sur le fait que c'est quelqu'un qui a toujours été très discret sur sa vie privée, qui a toujours gardé de manière assez claire sa vie privée, sa vie publique. Et il y avait une photo qui avait été diffusée dans Voici, où on le voyait aller acheter son pain. Et il a fait un procès en disant « Moi, j'ai toujours refusé que ma vie privée soit dans les magazines, donc je veux faire retirer cette photo. » Et le Voici avait argumenté en disant « Oui, mais là, il est dans l'exercice d'une activité publique, il est dans la rue, il va acheter le pain, puis de toute façon, c'est un personnage public. » Eh bien, Voici a perdu parce que comme il avait toujours eu cette volonté de préserver sa vie privée, on a considéré qu'aller chercher son pain comme n'importe quel citoyen lambda, c'était un acte privé et que par conséquent, lui avait le droit de le faire reconnaître comme un acte privé. Alors que demain, Paris Hilton fait la même chose, le juge vous dira... C'est bon, on peut la prendre en photo, faites-vous plaisir. D'accord ? Donc il y a vraiment une différence qui, là encore, est liée au cas par cas. L'activité publique, ça va également viser les gens qui sont, à un moment donné, dans une activité publique. Typiquement, un ministre ou le président de la République qui fait une allocution publique ne peut pas interdire la prise de vue ni l'exploitation de cette prise de vue, puisqu'elle est dans le cadre de son activité, par définition, publique. Une personne qui va au Festival de Cannes, pareil, une star qui vient voir un film au Festival de Cannes, elle est dans une activité publique. Donc à chaque fois, dans ce cadre-là, elle va perdre son droit de contrôle sur l'image. Mais son droit de contrôle sur son image va être perdu tant que l'exploitation qui est faite de cette image a un lien, évidemment, avec cette activité publique. Si demain, je prends François Hollande en photo en train de faire un discours et que je le publie sur mon blog et que j'en fais un des héros d'un roman photo, ça n'a rien à voir avec, évidemment, la fonction qu'il exerce. Là, il pourra m'attaquer. D'accord, pour atteinte à l'image. Par contre, si je le mets sur un blog en disant la dernière allocution de François Hollande, bah là, il ne pourra rien me dire puisque je reste dans le cadre, dans un cadre pertinent par rapport au cadre dans lequel l'image a été prise. D'accord ? Et cette notion d'activité publique, elle s'étend également aux particuliers. Donc à des gens qui ne sont pas du tout considérés comme des personnes publiques. Donc je vous disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, quand on est dans l'exercice de notre métier ou de nos fonctions, nous sommes dans une activité qui est publique, par opposition à la vie privée qu'on a chez nous ou avec nos amis. Et dès lors que nous sommes dans cette activité publique, eh bien notre image peut être fixée et exploitée dans le cadre de cette activité publique. Alors, quand on est là dans le cadre de l'ENSIB ou de l'école, c'est assez limité, puisque... l'image, vous allez l'exploiter dans un cadre professionnel. Là où ça a pu poser plus de problèmes, c'était par exemple pour des gens qui vont être exposés. Et vous avez eu plusieurs arrêts sur des policiers qui, eux, ben, se trouvent directement exposés quand ils amènent, par exemple, des détenus au palais de justice pour un procès. Et ben, on va prendre en photo les détenus et on va prendre en photo également les policiers. Ils sont indéniablement dans l'exercice de leur activité publique et pour autant, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans tous les magazines le lendemain. Et donc là, pareil, il y a eu un arrêt assez, assez célèbre. C'était donc un gendarme. C'était au palais de justice à Paris et donc la sécurité est assurée par la gendarmerie nationale. Donc il était tout en bleu, comme les gendarmes donc en bleu sombre, et il se trouve que c'était une personne qui appartenait donc à la communauté juive et qui portait une longue barbe. Et il amène deux détenus et c'était un procès qui était le procès des barbus et qui était un des premiers procès sur les islamistes, donc les réseaux islamistes, qui donc étaient amenés dans le cadre de ce procès au pénal et qui eux aussi portaient une longue barbe. Et il se trouve que par hasard complet, les deux islamistes étaient également vêtus de bleu marine, pull bleu marine et pantalon bleu marine. Donc quand on les mettait, comme ils avaient une longue barbe, on ne voyait pas forcément le petit bandeau gendarmerie. Donc on voyait trois gars barbus, tous en bleu marine. Et effectivement, il y a une photographie qui a été prise et qui a été titrée par un journaliste, « Le gang des barbus ». Sauf que... Du coup, effectivement, ça n'a pas beaucoup plu aux gendarmes qui n'a pas beaucoup apprécié d'être assimilé à ces deux personnages et qui a donc fait un procès pour atteinte à son image. Eh bien, il a perdu parce que même si en plus il y avait quand même quelque chose d'assez fort derrière, puisque là on est en plus sur des communautés qui étaient, puisqu'en plus ce gang c'était pour des actes antisémites, donc c'était quand même assez fort symboliquement, eh bien il a perdu puisqu'il était dans l'exercice de son activité publique et que la seule chose qu'on lui a octroyée, c'est qu'il soit identifié sur la photo comme étant un gendarme. Voilà. Mais il n'a pas pu faire interdire l'exploitation de cette image parce qu'il était dans l'exercice de sa mission. Donc, dans ces cas-là, effectivement, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut pas empêcher l'exploitation. Donc, tout ceci pour vous montrer que l'exploitation d'une image va être un petit peu compliqué parce que vous devrez à chaque fois vous demander, est-ce qu'il faut que j'aille demander l'autorisation, donc de tout à l'heure on l'a vu, de l'auteur, est-ce qu'il faut que j'aille demander l'autorisation de la personne qui est prise en photo, si j'ai une personne qui est prise en photo, qu'elle est dans l'exercice d'une activité publique, donc je peux m'en passer, ou est-ce que c'est une activité privée, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de droits et d'autorisations finalement qui s'interfèrent quand vous vous posez la question d'exploiter une photo. Et alors, on pourrait s'arrêter là et se dire, bon bah au moins quand je prends en photographie un bien, une chaise, etc., au moins j'ai pas de problème. Bah même pas, pas de chance. Il y a également des droits qui existent sur les objets corporels ou sur les bâtiments et qui peuvent également poser des difficultés. Et là, c'est toute la question du droit à l'image des biens. Alors, heureusement pour nous, la jurisprudence a énormément évolué à travers le temps. La première question qui s'est posée, c'était pour une affaire qui est dite du café Gondret. Alors le café Gondret, c'est le premier café qui a été libéré en Normandie et qui du coup est devenu un lieu de pèlerinage et qui est un lieu de visite assez célèbre dans le coin puisque c'est le premier café libéré par les Américains. Et donc, le propriétaire de ce café exploitait des cartes postales du café Gondret. Et puis, donc le café, en fait, il est vraiment sur la plage. Il est assez loin du premier village. Enfin, il doit falloir marcher 500 mètres, mais ce que je veux dire, il est détaché du premier village. Et donc, vous avez le cafetier du village qui, lui, s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'exploiterais pas des images et que je vendrais pas, moi aussi, des cartes postales, qui allait faire une photo et qui a tiré des cartes postales. Ce qui n'a pas vraiment beaucoup plu, effectivement, au propriétaire du café Gondret, qui lui a fait un procès en revendiquant le droit à l'image du bien. Et donc, pour la première fois, on s'est posé cette question, mais à quel titre le propriétaire d'un bien, donc là d'un immeuble, pourrait revendiquer un droit sur son image? Et la Cour de cassation nous dit, bah écoutez, effectivement, vous êtes propriétaire du bien, or un droit de propriété, c'est un droit qui est exclusif et absolu, qui vous donne le droit de contrôler toutes les exploitations de votre bien. Et donc finalement, si on veut être logique, eh ben vous devez également avoir le droit d'exploitation de l'image de votre bien. Donc il reconnaît au propriétaire du café Gondret le droit de faire interdire l'exploitation par un autre que lui de son café parce qu'il avait un droit sur l'image de ce bien. Ce qui a quand même retiré du domaine public la totalité des bâtiments puisqu'on ne pouvait plus prendre en photo quasiment aucun bâtiment sans avoir l'autorisation du propriétaire de l'immeuble pour divulguer et exploiter l'image, ce qui rendait quand même extrêmement compliqué le fait de faire des photos tout court. On a eu toute une série d'arrêts après cet arrêt Gondret, et notamment une autre affaire qui était assez célèbre, qui était les propriétaires des volcans d'Auvergne qui ont attaqué Volvic pour faire interdire, puisque ce sont des terrains qui appartiennent à des propriétaires privés, pour faire interdire l'exploitation de leurs photographies. Et ils ont demandé plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts à Volvic pour avoir exploité pendant des années l'image de leurs biens sans leur avoir donné leur autorisation. Comme par hasard, Volvic a changé de logo et aujourd'hui il n'y a plus de volcans d'Auvergne. Enfin, pendant un temps, il n'y a plus de volcans d'Auvergne sur les bouteilles de Volvic pour cette raison. Donc il y a eu une condamnation qui était assez lourde, et on a commencé à avoir des tas de procès comme ça qui sortaient de gens qui se disaient, mais attendez, moi il y a un bon moyen de me faire de l'argent, donc je vais attaquer les exploitants des photographies, ce qui a rendu extrêmement complexe pendant presque 10 ans l'exploitation de photos de bâtiments d'architecture notamment, mais également de biens, d'une chaise, d'un chien, tout ce que vous voulez. Donc ça devenait quand même extrêmement compliqué. Heureusement, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence, et c'est un arrêt qui est extrêmement important puisqu'il a été rendu dans ce qu'on appelle l'assemblée plénière. L'assemblée plénière, c'est quand la Cour de cassation, qui est divisée en chambres, se réunit avec l'ensemble des juges de des chambres pour rendre une décision, et c'est vraiment des décisions qui ont vocation à s'appliquer sans être contestées. Donc quand vous avez un arrêt d'assemblée plénière, c'est que derrière, aucune juridiction française n'ira à l'encontre de cette décision. Donc on dit que ce sont des arrêts qui fixent la jurisprudence. Et donc c'est un arrêt qui s'appelle Hôtel de Girancourt. Là c'était sur l'exploitation de la photographie d'un hôtel qui était un assez bel hôtel en Normandie, je crois que c'est vers Rouen, et où effectivement pareil il y a eu un problème d'exploitation. Et en fait on s'est rendu compte qu'on en est arrivé à quelque chose de complètement paradoxal, où on n'avait plus aucune liberté de prendre de photos dans l'espace public, et où en plus on octroyait un droit au propriétaire de l'immeuble qui normalement aurait dû revenir à l'architecte, parce que n'oublions pas qu'un bâtiment, c'est avant tout une œuvre d'architecture, qui est probablement protégée par un droit d'auteur. Or, qui a le droit de représentation et donc le droit de protéger l'image ? Eh bien, c'est l'auteur. Et là, on reconnaissait ce même droit identiquement au propriétaire du bien physique, ce qui commençait à créer quelques difficultés pour faire jouer ces droits ensemble. Et donc la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en disant le propriétaire matériel du bien, donc de l'immeuble notamment, n'a pas le droit de contrôle de son image et ne peut donc pas interdire l'exploitation de son image. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut librement prendre la photographie d'un bâtiment et l'exploiter derrière. Mais ce que rajoute la Cour de cassation, c'est que le seul moyen pour le propriétaire de s'opposer à l'exploitation de cette image, eh bien, ce sera lorsque cette exploitation cause un trouble de jouissance anormal au propriétaire du bien. Sauf qu'elle nous a dit ça, mais elle a oublié de définir ce qu'était le trouble anormal de jouissance. Donc on s'est retrouvé bien embêté avec cette définition à créer. Et petit à petit, donc au fil des jurisprudences qui se créent, on est en train d'essayer de dessiner les contours de qu'est-ce qu'un trouble anormal de jouissance. Alors un trouble anormal de jouissance, ça ne peut pas être un trouble concurrentiel, donc de type économique. Si je reprends l'affaire du café Gondré, ça ne peut évidemment pas être « j'ai un concurrent qui va vendre des cartes postales de mon bien ». Ça, c'est un trouble économique, c'est un trouble normal parce que la concurrence est un état normal en France. Enfin, dans d'autres pays, mais ce que je dis en droit économique, c'est considéré comme un trouble normal. Donc ça ne peut pas être anormal que quelqu'un vous concurrence. D'accord ? Donc le trouble économique ne pourra quasiment jamais être considéré comme un trouble anormal de jouissance, sauf à ce qu'il découle de pratiques elles-mêmes jugées comme déloyales. Donc par exemple des pratiques de parasitisme ou vraiment des pratiques déloyales. Mais là on voit assez mal comment est-ce qu'on pourrait concurrencer l'exploitation d'une photographie de manière totalement déloyale. Ça paraît relativement compliqué. Alors, juste pour la petite histoire sur l'arrêt Gondré, parce qu'il s'est fini juste après l'hôtel de Girancourt. Donc c'est le premier arrêt qui a été rendu et c'est le dernier arrêt qui a été rendu sur cette question. Il y a eu 3 cassations en fait dessus, ce qui est énorme dans la vie, dans une procédure. 3 cassations qui ont duré 10 ans. Et tout est parti de là, ça a quand même été un grand chamboulement sur la jurisprudence, sur le droit à l'image. Et tout ceci pour que le dernier arrêt de la Cour de cassation réalise qu'en fait le propriétaire du café Gondré était un usurpateur et qu'il n'avait pas de titre de propriété valable. Et que donc il nous a embêtés pendant 10 ans alors qu'il n'était tout simplement pas le vrai propriétaire du café Gondré. Tout ça pour ça. Et ça s'est terminé sur cette jolie note. Depuis, plus aucun arrêt sur cette question, ça a mis un terme définitif. Donc effectivement, le trouble anormal de jouissance ne pourra quasiment jamais être un trouble de nature économique. Sauf parasitisme, donc le parasitisme c'est le fait d'utiliser l'image ou la réputation d'autrui pour, et donc les efforts financiers qui ont été faits pour se créer cette réputation, de se mettre dans le sillage et d'en bénéficier directement. Mais on voit quand même relativement mal comment économiquement, par l'exploitation d'une photo, on pourrait se mettre dans le sillage de quelqu'un. Donc ça paraît assez limité. Les seuls cas qu'on a trouvés, ce serait par exemple une entreprise qui serait, je sais pas moi, un éditeur de logiciels et qui prendrait en photographie les bâtiments de Microsoft et qui les mettrait sur son site en disant « voilà nos bâtiments hyper high-tech ». Là, évidemment, en fait, ils sont dans la zone industrielle de Dreux. Ils ont un tout petit bâtiment dégueulasse qui fonctionne à peine. Là, effectivement, ça pourrait être considéré comme du parasitisme. Mais le préjudice n'est pas économique, c'est-à-dire c'est pas l'exploitation de l'image, c'est l'utilisation qui est faite de l'image, ce qui n'est pas exactement pareil. Au jour d'aujourd'hui, les seuls troubles de jouissance qui ont été reconnus comme étant anormaux, c'est une exploitation qui vous porterait quasiment un préjudice personnel. Donc, par exemple, vous avez eu un cas, c'était les propriétaires d'un manoir, qui est donc un lieu de visite, qui est un très beau lieu, dont la photographie a été publiée avec l'adresse par l'office du tourisme. Ils se sont retrouvés avec des hordes de touristes sur leur terre, alors qu'ils n'avaient pas du tout envie d'ouvrir au public leur manoir. Ça a été considéré comme un trouble de jouissance, c'est-à-dire la jouissance de leur bien. donc le manoir en tant que tel. Je ne peux pas en jouir comme je le veux en ma qualité de propriétaire parce que j'ai 40 personnes en permanence devant ma propriété. Voilà, ça c'est des troubles de jouissance qui ont été reconnus. Vous avez eu également des gens dont la photographie s'est retrouvée effectivement utilisée pour illustrer, par exemple dans un attentat, on prend en photographie un bâtiment et on donne l'adresse du bâtiment et vous vous retrouvez avec des hordes de paparazzi au pied de chez vous qui espèrent voir l'endroit où tel terroriste a été tué. Ça, ça pourrait être un trouble de jouissance parce qu'on vous empêche de jouir de votre bien. Voilà. Mais c'est à peu près les seuls types de troubles qui ont été reconnus. Donc aujourd'hui, le seul moyen pour le propriétaire d'un bien de s'opposer à l'exploitation de l'image, c'est ce trouble anormal de jouissance qui est quand même extrêmement réduit. Donc heureusement, aujourd'hui, quand vous avez des photographies de biens dans vos archives, il y a assez peu de chances pour qu'on puisse vous opposer le droit à l'image du bien. Par contre, qu'est-ce qu'on pourra vous opposer ? Et bien c'est là qu'on retrouve le droit d'auteur. Parce qu'une photographie, c'est ce qu'on appelle nous une œuvre dérivée, elle prend en photo quelque chose qui peut lui-même être une œuvre de l'esprit. Or, pour pouvoir prendre quelque chose qui est lui-même une œuvre de l'esprit, eh bien, c'est une nouvelle fixation de cette œuvre, puisque vous fixez le reflet de ce bien sur un nouveau support qui est la photographie, et toute exploitation de cette œuvre est une nouvelle représentation. Donc, vous mettez en jeu les droits de l'auteur du bien qui est pris en photographie. Donc, pour tout ce qui est bâtiment d'architecture, il y a toujours cette question de est-ce que la personne avait l'autorisation de l'auteur ? Quand on a des bâtiments extrêmement anciens, la question ne se pose pas parce qu'il y a de grandes chances pour que l'architecte n'ait de toute façon plus de droit sur cette œuvre et qu'elle soit tombée dans le domaine public. Mais dès qu'on prend en photographie des bâtiments contemporains ou modernes, là la question se pose. À Paris ou à Lyon, alors je connais moins bien Lyon que Paris.
Le cas de la place des Terreaux.
Voilà, bah, typiquement la place des Terreaux.
Buren a...
Voilà.
Enfin, attaquer
et
voilà. Et donc il s'opposait à ce qu'on prenne des cartes postales.
Exactement. Alors Buren a perdu parce qu'on a considéré que la photographie, en fait, les cartes postales, c'était vraiment de la totalité de la place des Terreaux avec les bâtiments derrière. Et évidemment, on pouvait pas enlever les fontaines de Buren. Il y a eu à peu près le même arrêt place de la Comédie française à Paris, puisque c'est le même cas de figure. C'est à peu près la même configuration avec cette fois les colonnes de Buren. Dans les deux cas, il a perdu et le premier arrêt était place des Terreaux parce qu'on a considéré qu'effectivement, cette fois, l'œuvre de l'esprit était accessoire à la photographie. C'est-à-dire que le but, c'était de prendre cet ensemble architectural et non pas de prendre en photo les fontaines créées par Buren. Mais ça vous illustre le fait qu'on n'aurait pas pu prendre normalement en photo une fontaine en gros plan parce qu'il y a encore un droit. Vous avez eu un autre arrêt toujours à Lyon, cette fois c'était sur la fête des Lumières. Vous prenez un bâtiment qui date du XVIIIe siècle en photo, vous dites il n'y a pas de problème, de toute façon il n'y a plus de droit. Sauf que, pas de chance, l'éclairage est protégé par le droit d'auteur. Donc les jeux de lumière qui ont été faits sont la plupart du temps considérés comme une scénographie et protégés en tant que tels. Donc prendre une photo de nuit pendant la fête des Lumières vous expose à une revendication de l'auteur de la scénographie des Lumières. On a eu le même cas de figure à Paris avec la Tour Eiffel, donc qui est plus du tout protégée, mais les jeux de lumière la nuit sont protégés. Vous ne pouvez pas prendre la Tour Eiffel en photographie la nuit et exploiter son image sans avoir obtenu et payé des droits relativement chers à l'auteur de l'éclairage. Et donc tous ces bâtiments, donc vous avez eu pas mal de cas comme ça en France, vous avez eu le nouveau musée de la Méditerranée à Marseille, vous avez eu la Géode à Paris, donc il y a eu effectivement les fontaines de Buren, etc., qui vous montrent que dès lors que vous prendrez en photo un bâtiment sur lequel il peut encore y avoir des droits d'auteur, eh bien vous retombez dans une obligation d'autorisation de la prise de vue, mais également de l'exploitation. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez avec dans votre fond une photographie qui vous avait été donnée par héritage ou à la suite où vous avez racheté n'importe où, etc., eh ben, vous ne pourrez peut-être pas exploiter cette photographie. Un, parce que peut-être que le photographe en lui-même a réalisé une œuvre de l'esprit, donc il faut son autorisation, mais il faut également l'autorisation de l'architecte du bien qui est pris en photo. Alors pour un peu que vous ayez rajouté quelqu'un devant, là, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc effectivement, vous avez tous ces droits qui se cumulent. Et quand je vous disais qu'ils se rencontrent jamais, c'est-à-dire qu'ils ne s'annulent jamais. Et vous ne pourrez jamais, vous, dernier exploitant, opposer à la personne qui est prise en photo. Bah oui, mais moi, je suis partie du principe que si je vous ai dans mon fonds d'archives, c'est que je peux exploiter. C'est que la personne avant moi a eu les droits. Non, parce que c'est une responsabilité personnelle. C'est à chaque exploitant de vérifier qu'il a les droits pour pouvoir exploiter la photo de manière générale. Donc vous ne pourrez jamais opposer cette excuse de dire je savais pas, j'étais de bonne foi. Et bien tant pis pour vous, il fallait aller rechercher si vous aviez bien les droits des différents titulaires de droits sur cette photographie. Ce qui rend effectivement, hop, je regarde où j'en suis, les choses assez relativement complexes pour pouvoir exploiter la photographie. Une fois que vous avez récupéré tous ces droits, est-ce que pour autant, vous, en tant que propriétaire du fonds d'archives, est-ce que vous avez le droit d'interdire à autrui d'exploiter la photographie dont vous êtes propriétaire? Eh bien, quasiment pour les mêmes raisons, la réponse va être non. Pourquoi? Parce que vous avez ces photos dont vous êtes propriétaire à titre physique. Mais vous n'êtes pas pour autant devenu titulaire des droits d'auteur sur la photographie s'il y en a. Vous avez obtenu une autorisation, vous, d'organiser une exposition. Mais l'auteur ne vous a pas investi de ses droits d'auteur, donc il ne vous a pas vous-même investi de la possibilité de dire à autrui, bah, je contrôle la reproduction et la représentation de mes œuvres, des œuvres que j'expose. Donc quand on voit toute l'histoire sur les musées qui ont interdit la prise de photos en leur enceinte, eh bien la plupart du temps on se rend compte que cette interdiction est totalement illégale et que les musées n'avaient pas du tout la possibilité de l'interdire, et ce pour deux raisons. Tout d'abord parce que bien souvent, les musées n'ont eu qu'une simple autorisation et ne sont pas du tout titulaires des droits d'auteur. Très rares sont les musées qui ont acquis les droits d'auteur sur une œuvre. Or, le seul moyen de pouvoir contrôler toutes les exploitations de l'image d'une œuvre, c'est d'être titulaire des droits d'auteur. Bien souvent, ils n'ont eu qu'une simple autorisation qui était de dire « je vous autorise à les exposer ». Donc, partant de là, je ne vous autorise pas à interdire à autrui de les représenter. Et je ne vous autorise pas d'interdire à autrui de la reproduire et de la prendre en photo. Donc quand vous voyez le musée d'Orsay, qui est le dernier en date, qui vous dit « moi j'interdis la photographie parce que j'ai pas envie qu'il y ait de photos, mais monsieur, vous n'avez pas le droit en fait de me l'interdire. La seule personne qui peut me l'interdire, c'est l'auteur de la photo, c'est le titulaire des droits. » Ce qui est possible, qui peut se passer, c'est que le titulaire du droit, mais ça n'arrive quasiment jamais, parce que vu que c'est quand même un problème assez récent, c'est rarement dans les contrats, la seule chose qui pourrait arriver, c'est que le titulaire des droits donne mandat au musée de faire respecter son droit d'auteur et donc de faire interdire la photographie. Mais du coup, si je reprends l'exemple du musée d'Orsay, ça ne peut pas être une interdiction générale à l'entrée du musée, ça ne peut être qu'une interdiction œuvre par œuvre, que l'auteur qui a donné l'interdiction pour son œuvre, et ça ne vaut pas pour l'œuvre du voisin. Donc quand on voit des petits panneaux interdiction de photographier, la première question c'est, monsieur le conservateur, avez-vous les droits d'auteur sur la totalité des œuvres qui sont dans votre musée? Si c'est non, je fais des photos. Donc déjà, première chose, c'est que bien souvent, vous n'avez pas, en fait, en tant que conservateur ou en tant que bibliothécaire ou en tant que chercheur, etc., en fait, on n'a pas la possibilité d'interdire la reprise de photos. La seule chose qu'on peut faire pour se couvrir, parce qu'il y a quand même toujours un risque, c'est de dire la photographie est soumise au respect des droits d'auteur, libre à l'utilisateur de le faire. Pourquoi est-ce qu'en plus les musées ne peuvent pas interdire la prise de photographie? Parce que quand bien même ils auraient eu l'interdiction, ils auraient eu pour mandat de la part de l'auteur de faire respecter leurs droits et de faire interdire les photographies. Et quand bien même ils seraient même titulaires des droits d'auteur, il y a une exception en droit d'auteur qui est ce qu'on appelle la copie et la représentation privée. Qu'est-ce que c'est la copie et la représentation privée? C'est de dire que l'auteur peut interdire toute forme d'exploitation par reproduction ou par représentation, sauf lorsque celle-ci est faite par un particulier pour son usage propre. Typiquement, je prends une photo avec mon iPhone pour la regarder quand je suis chez moi parce que j'aime cette peinture. Voilà. Ou parce que je vais la mettre sur mon Facebook qui est en profil fermé et que j'ai 100 amis qui vont la voir, c'est pas la fin du monde. Et bien cette copie privée, elle est légale, elle est autorisée. Donc même un auteur ne peut pas m'interdire de le faire. Donc quand un utilisateur vient et prend une photo au musée d'Orsay, quand bien même il aurait les droits d'auteur, il ne peut de toute façon pas me l'interdire, puisque si je suis dans une exploitation privée de cette photographie, j'ai le droit de le faire et l'auteur y compris ne peut pas m'en empêcher. Donc la seule chose que pourrait faire un musée, c'est d'attirer mon attention sur le fait que je n'ai pas le droit de faire d'autres formes d'exploitation que celle d'une exploitation privée. Et que la réalité, c'est que la seule interdiction qu'un musée peut réellement faire, c'est d'interdire à un photographe qui vient dans le cadre d'une activité publique. Donc typiquement, je demande une autorisation pour faire une photo d'une œuvre en disant c'est pour publication dans un ouvrage. Ça, l'auteur peut l'interdire. Et le musée peut l'interdire s'il a mandat de l'auteur. Mais s'il n'a pas les droits ou s'il n'a pas de mandat, il ne peut rien faire. Donc déjà, ça limite quand même relativement la portée de ce type d'interdiction. Alors, la question qui s'est posée, c'est est-ce que le musée... Alors, il n'y a pas encore eu de jurisprudence sur cette question, mais a priori, ça ne saurait tarder. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il existerait d'autres fondements juridiques qui pourraient justifier qu'un musée ou une institution publique puisse interdire la photographie à des usagers dans un musée ou dans une exposition ou d'un fonds de photographie, etc., etc. Le problème qui se passe, c'est que on est souvent dans le domaine public. C'est-à-dire que quand on est un musée public, une bibliothèque publique ou un lieu public, ce lieu est librement accessible au public par définition. Donc, s'il est librement accessible, et les œuvres qui sont dedans sont également librement accessibles. Donc, étant dans un lieu public, je ne peux pas interdire aux gens qui sont dans ce lieu public de se comporter d'une manière normale, et prendre une photo est une manière normale. Je ne pourrais le faire que si je suis dans un lieu privé. Et je pourrais être dans un lieu privé si, par exemple, je suis une bibliothèque privée. Là, ça change un petit peu la donne parce que là, j'ai le droit de contrôler la manière dont je laisse l'accès aux gens. Donc là, je peux dire, j'interdis toute photographie dans l'enceinte de mon bâtiment, mais parce que je suis chez moi, en fait. Donc si je veux l'interdire, je l'interdis. Alors que dans le domaine public, on ne peut pas l'interdire. Ce qui est quand même la principale difficulté. Et même dans un musée privé, on pourrait malgré tout dire qu'à partir du moment où il a laissé l'accès au public, il a accepté également que les photographies soient prises. Donc il y a quand même des discussions qu'il pourrait faire. Mais pour un musée ou une bibliothèque publique, le problème est qu'on est dans le domaine public. Alors, ce que les musées ont essayé de dire, c'est qu'ils avaient un droit exorbitant, puisque l'administration a ce qu'on appelle des droits exorbitants, c'est-à-dire que du fait même qu'ils sont dans une mission de service public et qu'ils représentent les pouvoirs régaliens de l'État, ils ont des droits qui peuvent leur être reconnus, même si ces droits ne pourront jamais être reconnus à une personne privée. Et donc, ils ont essayé de se trouver une justification légale à la possibilité d'interdire la reproduction des œuvres qu'ils exposent en dehors de la question du droit d'auteur. Et pour ça, ils ont essayé de se fonder sur leur mission de service public. Or, a priori, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la mission de service public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un centre de recherche, c'est justement de donner un accès à la connaissance et un accès à la culture. Et que le fait d'autoriser la photographie, eh bien, ça contribue à cet accès aux connaissances et à la culture. Donc déjà, dans une des missions fondamentales des musées et de tout ce type d'institut, il y a l'accès à la culture. Autre chose... Les pouvoirs exorbitants d'une telle institution ne peuvent être lus que par rapport aux missions qui leur ont été strictement reconnues. Or, dans les missions qui leur sont strictement reconnues, c'est le fait de veiller et de protéger l'intégrité de leur patrimoine. Protéger et veiller à l'intégrité de leur patrimoine, ça peut être notamment, typiquement, vous faites une exposition sur les riches heures du duc de Berry, c'est des documents extrêmement fragiles, vous interdisez la prise de photos avec flash. Effectivement, ça a une logique scientifique. Par contre, vous exposez des œuvres de Picasso, pourquoi interdire la photo ? Tout simplement, même avec un iPod ou ce qu'on veut, il n'y aura pas de raison scientifique, il n'y aura pas de raison liée à le fait de préserver cette œuvre, et que donc on ne pourra pas trouver dans les missions du musée ou de l'institution une raison légale qui justifie qu'on lui reconnaisse un tel droit. On a failli avoir une loi qui leur reconnaisse un droit à l'image particulier sur leur collection. Et en fait, il y a eu un texte de loi qui a été présenté au Sénat et qui n'a jamais été voté. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de droit à l'image exorbitant reconnu aux musées et aux institutions muséales sur leur collection. Donc tant qu'on ne reconnaîtra pas ce droit, eh bien les musées n'auront pas plus de possibilités que le commun des mortels pour interdire ou contrôler l'exploitation qui est faite des images de leur collection. Et donc notamment que quelqu'un vienne et prenne une photo d'une autre photo qui est là, ou même de plusieurs photos qui sont exposées. La seule chose qui est autorisée, c'est le droit à percevoir une redevance, qui donc là est fixée par une loi de 1913, je crois, avec tous les tarifs qui sont affectés, et qui prévoit que le musée ou l'institut, l'établissement public, peut vous demander de payer une redevance pour avoir le droit de prendre et d'exploiter de telles photos. Mais c'est des redevances qui sont calculées à l'image et par le coût de la copie. Donc c'est des tarifs extrêmement bas. Demain, le musée d'Orsay ne peut pas me dire une photo c'est 1000 euros. D'accord, une photo, je crois que c'est 4,50 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement infime. Et donc la réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les musées n'ont pas plus de droits que ceux qu'ils s'octroient de pouvoir interdire et de pouvoir contrôler les exploitations de cette image, parce que le fait d'être propriétaire d'un fonds d'image ne vous donne aucun droit particulier pour le contrôle, puisque le droit à l'image des biens n'existe plus. Le dernier arrêt de l'hôtel de Girancourt ne le reconnaît pas, donc je peux même pas invoquer le fait que je suis propriétaire. J'ai probablement pas les droits d'auteur dessus. J'ai certainement pas le droit à l'image de la personne qui est représentée. Et la loi ne m'a jamais reconnu un droit exorbitant à avoir un droit spécifique sur les collections que j'héberge. Donc, conclusion, la plupart du temps, ce type d'interdictions sont totalement illicites et ne correspondent à aucune réalité légale. Tout ceci pour dire, pour finir, j'aurais tenu pile une heure sur ces questions, que c'est un droit qui est assez complexe. Il est complexe parce qu'il y a uniquement une seule loi qui le gère, que c'est beaucoup de jurisprudence, que c'est évidemment des autorisations successives et que c'est surtout un droit qui n'est que du cas par cas. On ne peut jamais faire de généralité et on ne peut jamais prendre un ensemble de photos et se dire « Eh ben là, effectivement, je suis protégé, je suis pas protégé. » Vous ne pourrez jamais être aussi simpliste que ça dans votre approche de vos collections, de la protection de vos collections, parce que le juge lui-même ne pourra pas être aussi simpliste et fera du cas par cas. Et pour finir sur cette touche, c'est que la plupart du temps, et ça c'est quelque chose qui se développe, les musées cherchent souvent un moyen justement de se reconnaître des droits et d'essayer de trouver un moyen de faire protéger et de valoriser le patrimoine qu'ils ont. Et la dernière chose qui a été trouvée, qui était assez bien trouvée, c'est lorsque vous organisez des expositions, donc comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas forcément les droits sur les œuvres en tant que telles, etc. Mais sur quoi est-ce que les musées se sont retrouvés des droits? Eh bien sur la scénographie. La scénographie peut être en elle-même une œuvre de l'esprit, et qui est titulaire des droits? Eh bien, c'est le conservateur du musée ou la personne en tout cas qui a fait la scénographie, donc le scénographe. Et si c'est un fonctionnaire, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais les droits ont été transférés à l'établissement de rattachement, donc le musée la plupart du temps. Et si ce n'est pas le cas, il y a souvent des contrats de travail qui font que les droits ont été transférés. Et donc, par la scénographie, on arrive à remettre une protection sur l'ensemble de ces photographies, puisque autant je ne pourrais pas empêcher à quelqu'un de se mettre devant un tableau et de le prendre en photo, autant je pourrais empêcher quelqu'un de faire une photographie d'ensemble, parce que là, c'est la scénographie que je prends en photo, et là, c'est bien le musée qui a des droits dessus, au titre du droit d'auteur. Donc c'est un petit peu l'arrosoir arrosé, finalement, c'est un cercle et on en revient toujours au début et on se retrouve avec une couche de droits supplémentaires à devoir apprécier pour pouvoir déterminer comment exploiter ces images et comment les valoriser. Voilà ce qu'on pouvait dire en une heure sur le droit à l'image.
Merci beaucoup à vous pour cette exposé performance qui, je pense, a bousculé un certain nombre de certitudes chez nos auditeurs, dans la mesure où les conservateurs ou bibliothécaires pensent souvent avoir toutes sortes de droits sur les collections qu'ils conservent. Et on vient donc de s'apercevoir que finalement... nous n'en avons pas, ou quasiment pas, ou très peu. Donc je pense que votre exposé aura suscité un certain nombre de questions dans la salle. Voilà, et donc...
Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir s'il existait une harmonisation au niveau international du droit d'auteur, et notamment sur le droit anglo-saxon. Est-ce que c'est les mêmes principes ou...
Alors, en fait, l'avantage du droit d'auteur, c'est qu'il n'y a que deux systèmes dans le monde. Donc c'est toujours ça de prix, puisque c'est l'un ou l'autre. Le droit d'auteur à la française, et c'est... ou le copyright à l'anglaise ou à l'américaine. En Europe, à part l'Angleterre, on est tous sous droit d'auteur, donc on a un droit d'auteur qui est quasi identique dans tous les pays européens. Et dans le reste du monde, on est plus sur du copyright à l'anglaise ou à l'américaine. Le régime n'est pas harmonisé, c'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont vraiment très différents entre les deux systèmes. Ceci étant, on a des conventions internationales qui ont eu pour but d'essayer de trouver un minimum d'harmonie. Et aujourd'hui, on peut dire que ce qui change fondamentalement entre les deux, c'est plutôt le degré de protection. Dans le droit anglais ou anglo-saxon, où l'auteur est beaucoup moins protégé, on est sur un droit beaucoup plus économique. Et dans le droit d'auteur à la française, il y a une protection beaucoup plus forte de la personne de l'auteur et beaucoup plus protectrice de ses propres intérêts. Donc il n'y a pas d'harmonisation, c'est-à-dire que si vous allez sous droit anglais, c'est vraiment un droit à part et c'est vraiment des règles à part. Mais dans l'esprit, les règles restent les mêmes. Voilà. Après, c'est dans l'application, dans la mise en œuvre. Mais il faut savoir que le droit d'auteur a été déclaré d'ordre public international, ce qui veut dire que quand vous êtes sur un territoire, sauf à ce que vous ayez signé un contrat où vous acceptez de prendre un autre droit, tout auteur, qu'il soit étranger ou non, qui revendique des droits en France est soumis au droit d'auteur français. Donc la question pour nous ne se pose pas. Et tout auteur français qui est à l'étranger et qui constate une contrefaçon de ses œuvres pourra revendiquer devant le juge étranger l'application du droit d'auteur français. D'accord, c'est le caractère d'ordre public du droit. Mais en tout cas, sur la grande division droits moraux, droits prérogatives patrimoniales, ça c'est relativement harmonisé. C'est vraiment la mise en œuvre qui va changer au niveau international. Voilà.
Bonjour. Je voudrais poser une question quant aux photos, un fonds de photographie dans le domaine de l'architecture. Et notamment l'architecture traditionnelle, donc constituée principalement d'habitations personnelles. Donc est-ce que ça sera un fonds utilisable, étant donné que les personnes n'ont pas forcément été interrogées lorsqu'on a pris la photo de leur habitation?
Alors là, vous aurez deux questions. Vous aurez la question de l'architecture, pour commencer. Alors, étant de l'architecture traditionnelle, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas protégé par le droit d'auteur. Puis tout ce qui relève de ce qu'on appelle le folklore, alors au sens large du terme, n'est pas protégé, sera considéré comme banal parce qu'on considérera que ce sera la mise en œuvre de codes qui sont tirés du folklore et qui sont dictés par autre chose que la recherche esthétique. D'accord ? Donc dans ces cas-là, il y a peu de chances qu'il y ait de droit de l'architecte dessus. Alors, à vérifier, c'est toujours pareil. Mais par contre, effectivement, si ce sont des photographies prises de l'extérieur, dans un village ou une rue, et que vous prenez des photos, les gens ne pourront pas vous opposer de droit quelconque, puisque c'est ce que vous voyez d'un lieu librement accessible au public. Par contre, dès lors que vous prenez des photos des intérieurs, que vous avez dû rentrer chez les gens, là, ça nécessite impérativement l'autorisation. Donc, si c'est pris de l'extérieur, a priori, il n'y a pas de problème pour ce qui est du droit sur le bien. Et il faut juste se poser la question de l'architecte. Est-ce qu'il y a éventuellement des droits? Donc si c'est des photos assez anciennes, enfin des bâtiments assez anciens, le droit d'auteur n'existe peut-être juste plus. Donc la question se pose même pas. Et s'il existe, il faut se poser la question du caractère protégeable. Juste pour vous donner un exemple, donc je vais prendre Paris parce que c'est ce que je connais le mieux. Les bâtiments, donc effectivement, tout ce qui est style haussmannien n'est plus protégeable parce que ça fait plus de 70 ans que les architectes sont décédés. Mais il faut savoir que même si ça n'avait pas été le cas, la plupart de ces immeubles ne seraient pas protégés par le droit d'auteur. Pourquoi? Parce que qu'on trouve ça beau ou pas, le style haussmannien est un style et que par conséquent, si on est banal dans le style, on ne peut pas avoir de protection. Il ne suffit pas d'être architecte pour avoir une protection sur son œuvre. Il faut que son bâtiment soit en lui-même protégeable. Donc tout ce qui est grands projets architecturaux, bon, vous pouvez partir du principe qu'ils sont évidemment protégés. Par contre, ce qui est bâtiment de ville, c'est loin d'être sûr qu'ils sont protégeables, qu'ils sont protégés par un droit d'auteur. Donc là, dans votre cas de figure, il y a a priori assez peu de chances pour qu'il y ait un droit dessus. Donc plutôt a priori librement exploitable.
Un point de détail à propos de l'exception pour copie privée, vous avez dit que Facebook, mettre une photo sur Facebook était considéré comme un acte privé, j'avais compris le contraire.
Alors en fait, pour Facebook, vous avez toute une jurisprudence dessus qui considère que tout dépend déjà si votre statut va être ouvert ou fermé. Donc s'il est ouvert au public, évidemment que ce ne sera pas considéré comme une copie privée. Mais même si quand vous choisissez les critères de confidentialité de la photo, imaginez j'ai 1500 amis sur mon Facebook. Bon, ayant 1500 amis, je peux difficilement invoquer un cercle privé, et donc toute photo qui sera postée sur mon Facebook sera considérée comme étant une exploitation publique, parce que 1500 amis, ça commence à être relativement conséquent. À l'inverse, si j'en ai 180 ou 150, on reste, par rapport à la perception actuelle du public, on reste dans un cercle relativement fermé, donc ça pourra être considéré comme fermé. Mais même si j'ai un profil avec 1500 amis, je publie une photo avec comme critère de confidentialité 4 amis, je peux évidemment, là je serais bien dans l'exception de copie privée. Donc quand je dis une exploitation sur Facebook, c'est bien sûr avec toute la réserve que ça implique. Si vous avez 1500 amis, bon, c'est clair que ça marche pas. Si vous mettez des critères de confidentialité particuliers, ben oui, ça pourra marcher. Si vous l'ouvrez au public, ça ne marchera pas, etc. Mais effectivement, tout ce qui est mis sur Facebook n'est pas par nature privé. C'est vraiment du cas par cas et ça dépend de pas mal de critères. Comme toute utilisation sur des blogs, des forums ou tout type de réseaux sociaux, tout dépend du nombre de personnes qui vont avoir effectivement accès à l'œuvre au moment où vous l'exposez.
Je me pose plusieurs questions par rapport à la numérisation, parce que bon, c'est un peu différent des photos. Quels sont les statuts de ce qui est numérisé, ce qu'on met en ligne, alors que ce soit dans le cas de manuscrits anciens ou de documents anciens sur lesquels après certaines bibliothèques mettent en filigrane ou à côté un copyright. Et puis par rapport à de la presse ancienne aussi, qui est numérisée avec des fonds publics, que ce soit des fonds d'État ou des fonds de collectivité, est-ce qu'il y a un propriétaire du fichier numérique?
En fait, la numérisation, c'est une forme de reproduction. Donc en numérisant, je mets sur un nouveau support une œuvre qui préexiste, donc un manuscrit ancien, une photo, absolument ce que vous voulez. On s'est posé la question de savoir si l'acte de numérisation pouvait en lui-même constituer une nouvelle œuvre de l'esprit. Et est-ce que la personne qui numérise crée une œuvre de l'esprit? La jurisprudence est très catégorique, elle vous dit non, parce qu'on est vraiment dans un procédé là qui est purement technique et scientifique et dont le but est de préserver la valeur et l'intérêt de ce qui est numérisé. Donc au jour d'aujourd'hui, les numérisations en tant que telles, vraiment au sens technique, enfin, c'est quasiment comme une photocopie. Donc ça, il n'y aura pas de droit du numérisateur. Le numérisateur n'aura évidemment pas de droit d'auteur sur sa numérisation. Par contre, c'est une reproduction de quelque chose sur lequel il peut y avoir des droits d'auteur, évidemment. Donc là, même comme tout à l'heure, il faut demander les droits, etc. Si j'ai un manuscrit ancien et que je le numérise, il n'y a plus de droit d'auteur sur le manuscrit ancien, donc j'ai plus de problématique. Et quels sont les droits du coup que vous aurez sur la numérisation? J'ai envie de vous dire les mêmes que vous avez sur le manuscrit ancien, puisqu'en fait, ce n'est qu'une continuité de ce manuscrit. Donc si vous le mettez en libre accès sur Internet, et vous ne pourrez pas interdire sa reproduction. Par contre, vous restez propriétaire au sens matériel du terme. C'est-à-dire que si vous voulez soumettre l'accès à votre site internet et aux manuscrits à des conditions, vous avez parfaitement le droit, personne ne peut vous l'interdire. Mais par contre, à partir du moment où vous aurez laissé un accès libre, là, vous ne pourrez plus rien faire, vous ne pourrez plus rien y opposer. On est toujours dans cette notion de propriété, c'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit de mettre des mesures techniques qui empêchent le téléchargement de votre fichier. Ça, je ne peux pas vous l'interdire. J'ai pas moi de droit qui m'autorise à vous dire vous n'avez pas le droit de le faire, donc vous avez le droit de le faire. Et effectivement, sur tous les sites internet, le seul vrai moyen que l'on a, en fait, pour les banques d'images notamment, le seul moyen que les banques ont de protéger leur patrimoine, c'est de fermer l'accès du site en le rendant soit payant, soit par inscription, mot de passe, etc., et en soumettant le téléchargement à des conditions spécifiques. Ça, en tant que propriétaire du bien matériel, vous avez parfaitement le droit de le faire. Personne ne peut vous l'empêcher. Donc vous pouvez effectivement le faire. Par contre, si demain, pour vous donner un exemple, vous avez dans votre fond d'image un manuscrit sur lequel vous n'avez évidemment pas les droits d'auteur. vous l'exposez dans une exposition, vous ne pourrez pas m'interdire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, de le prendre en photo. Mais par contre, si sur votre site internet, vous soumettez à redevance le téléchargement de la numérisation, je ne peux rien vous dire. Parce que vous êtes dans l'exercice de votre pouvoir de propriétaire au sens vraiment propre, propriété physique. D'accord ? Même si effectivement, une numérisation, ce n'est pas très physique, mais vous êtes propriétaire de cette chose. Je ne peux pas vous opposer aucun droit d'auteur. Là, on n'est pas sur cette question-là. Et si je veux, moi, soumettre l'accès à mon site internet qui est quelque chose de privé à des conditions de rémunération, bah, libre à moi de le faire.
Je vous pose une question qui participe un peu sur ce qui vient d'être dit. C'est le statut de photographies déjà un peu anciennes qui ont été faites par des agences de photographie, je pense à Roger Violet par exemple, qui photographiait des manuscrits dans les bibliothèques publiques ou des documents dans les bibliothèques publiques et ensuite les revendait et les soumettait à une espèce de copyright photo Roger Violet. Apparemment, il n'en avait aucun droit là-dessus. C'est pas une œuvre de l'esprit que de reproduire une page de manuscrit avec un 24-36.
Donc effectivement, c'est pas une œuvre de l'esprit parce que c'est des photographies techniques. Donc il peut pas se revendiquer d'un quelconque copyright sur ces images. Donc il peut pas revendiquer derrière des droits qu'il ne lui a pas puisque c'est pas une photo. Par contre, j'ai toujours le droit, si vous voulez, moi demain je prends une telle photographie, le seul moyen pour quelqu'un d'y accéder c'est que je lui donne. J'aurai toujours le droit de subordonner le fait que je lui communique au paiement d'une redevance. Mais une fois qu'il l'a acheté, par contre il a acquis le support matériel et je ne peux lui vendre que le support matériel. Il ne pourra pas m'interdire de la revendre pour commencer et moi d'en faire des déclinaisons puisqu'il n'a pas de droit d'auteur dessus. Mais par contre il a parfaitement le droit de me la vendre et de me dire moi je suis propriétaire de ce bien physique, je te le vends mais je ne te le donne pas. Voilà. Donc il pourra monnayer effectivement, donc dans le cas des banques d'images, elles ont le droit de monnayer la vente de l'image, donc l'accès à l'image, mais elles n'ont pas le droit de m'interdire de la reproduire par la suite, puisqu'en fait elles n'ont pas les droits d'auteur dessus. Et qu'il n'y a que le droit d'auteur qui permet d'interdire les reproductions et les représentations successives. Parce que quand on est dans la vente de photographies par une banque d'images, qu'on soit de la photographie physique hein, ou de la photographie numérique, donc des téléchargements de fichiers, là je suis dans la vente d'un support physique et que ce support ne peut être vendu qu'une fois que je l'ai vendu, je transfère les droits au nouveau propriétaire et c'est fini. Donc je ne pourrais pas en interdire la réexploitation derrière. Après, et c'est si j'achète une photographie chez un brocanteur physiquement, une fois que je l'ai chez moi, je peux la revendre à quelqu'un, personne ne peut m'en empêcher, puisque je suis devenu le propriétaire de ce bien. Donc de même que je peux revendre mon appartement, moi je peux revendre la photo. La difficulté avec les fichiers MP3 ou MP ce qu'on veut ou .jpeg etc. qu'on va acheter sur internet, c'est que le vendeur peut parfaitement les bloquer. Et donc en vous le bloquant, n'autorisez qu'un seul téléchargement. Donc là, oui, de fait, il va m'empêcher de l'exploiter comme je l'entends et donc de la revendre, etc. Vous avez toute une question qui se pose qui est-ce qu'on peut me vendre quelque chose à un certain prix alors que je ne pourrai jamais la réexploiter telle que je le veux ? Et vous avez quand même une jurisprudence qui vous dit que je ne peux pas vendre aussi cher un fichier qui est bloqué, que donc je ne peux pas moi revendre, je ne peux pas l'exploiter comme je l'entends, parce qu'en réalité, je ne peux pas l'exploiter concrètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de licence, donc en fait, c'est des formes de location, location sans terme. Je vous autorise à télécharger un fichier, donc je vous le vends, mais pour une exploitation unique. Voilà. Donc en fait, on est dans de la licence légale, on n'est pas du tout dans de la vraie vente au sens propre. Mais si par contre, sur ce fichier, il n'y a pas de droit d'auteur, ce qui serait différent pour un logiciel ou ce genre de choses, s'il n'y a pas de droit d'auteur, j'ai dans l'absolu pas le droit de vous interdire de le reproduire ou de le représenter une fois que je vous l'ai vendu. Le seul moyen que j'ai, c'est de le bloquer. Et si je le bloque, là, vous l'avez accepté en l'achetant. Mais ça, c'est lié à des contraintes techniques qui sont l'utilité. Mais par exemple, mon fichier, je le télécharge, imaginons c'est une photo, je l'imprime et j'exploite le il ne peut rien me dire. Il ne peut absolument rien me dire. Alors, il y a grande chance pour que la qualité soit mauvaise, parce qu'en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépixelisent les photos et ils vous les vendent dans des qualités d'image extrêmement faibles, qui fait que vous ne pouvez pas les imprimer. C'est tous les moyens techniques qui leur permettent de le commercialiser, mais ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur. Ça m'empêcherait absolument pas de la tirer sur un papier et moi de la revendre ou de refaire un autre fichier par derrière, si j'en ai les moyens. C'est pas lié aux droits d'auteur, en tout cas.
D'autres questions ?
Vous avez parlé de la redevance sur l'exploitation en la loi de 1913. Mmh. Comment est-ce qu'elle est basculée avec la copie privée, en fait ?
Alors, en fait, la loi de 1913, c'est une loi qui autorise un établissement muséal, tout ce qui est considéré comme un musée au sens de la loi, c'est la loi Musée de France, à percevoir une redevance. En fait, cette redevance, vous la payez en achetant votre ticket. Donc, de fait, en rentrant dans un musée, vous vous acquittez de cette redevance. Donc, il pourrait parfaitement soumettre, vous pourriez voir apparaître, ça existe à l'étranger. Je l'ai jamais vu en France, moi, mais ça existe à l'étranger, où quand vous voulez visiter un lieu, c'est avec ou sans prise de photo, et vous payez un droit. Les musées pourraient parfaitement le faire. Il se trouve qu'en France, en fait, c'est noyé dans le prix d'accès du ticket, mais ça pourrait très bien un jour changer et que vous soyez amené à payer une petite redevance complémentaire en fonction du nombre de photos. Mais comme c'est un droit exorbitant qui est reconnu à l'administration, si vous voulez, c'est toujours pareil. En fait, ça ne se rencontre pas avec le droit à la copie privée. Le musée peut pas m'interdire de faire une photo et il peut pas m'interdire de l'exploiter de manière privative, mais je ne peux pas lui interdire de me demander de le payer. Voilà, c'est deux droits qui évoluent de manière parallèle. Mais effectivement, ce ne serait pas impossible qu'un jour les musées s'en sortent comme ça en faisant payer une redevance spécifique qui en fait aurait pour but principal, enfin c'est le cas à l'étranger, de compenser les pertes d'exploitation sur la vente, la revente de produits dérivés, puisqu'en fait c'est ça l'enjeu. C'est pas du tout qu'ils se sont découverts une passion soudaine pour la prise de photos et la préservation des œuvres. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les gens prennent des photos dans les musées et tout d'un coup, ça deviendrait dangereux pour les œuvres. C'est évidemment des questions d'exploitation qui sont derrière.
Une dernière question. Oui. Au fond.
Rester dans l'image, mais élargir un peu les cadres. Alors, les images numériques, les guichets numériques, elles sont lisibles, accessibles, à partir en fait, des données qui les accompagnent, les données qui sont dans le cadre des bibliothèques produites par les professionnels, mais on va dire sur toutes les plateformes de partage des images. Ce sont les utilisateurs qui ajoutent des données qui décrivent ces images. Et du coup, je me demandais quel était le statut juridique de ce type de données.
Alors, quand vous parlez de données, vous voulez dire...
C'est toute la description bibliographique dans les bibliothèques, c'est-à-dire qu'on ajoute en fait en fichier qu'est-ce qu'elle représente, les mots-clés, etc.
D'accord.
Est-ce que les professionnels sont... propriétaire ?
Alors, vous allez avoir une autre réglementation qui peut se mettre en œuvre. Ça relèvera, à mon avis, des... Alors, la donnée en tant que telle, il n'y aura pas de protection sur la donnée. D'accord ? Il n'y a pas... Les seules données qui sont protégées en France, c'est les données à caractère personnel. Donc, nom, prénom, religion, etc. Et sur toute autre donnée, il n'y a pas de... On considère que c'est une information brute. Donc la donnée en elle-même n'est évidemment pas protégée. La seule chose qui peut être protégée, c'est la base de données en elle-même. Donc en récoltant en collectant des données et en les organisant dans le cadre d'une structure, donc d'une base de données, vous allez créer une œuvre qui va être protégée en tant que telle par un droit qu'on appelle un droit sui generis. En fait, c'est donc un droit qui est existe et qui protège de manière spécifique un bien, qui est le droit des producteurs de bases de données. Donc toute personne qui va faire un investissement pour collecter des données et les organiser au sein d'une structure va pouvoir bénéficier d'une protection de cette base de données. Et la protection, ce sera le droit d'interdire toute forme d'extraction et de réutilisation des données incluses dans sa base. Donc Dans le cas de ce que vous me dites, c'est plutôt au titre de la base de données qui est constituée et auquel les gens vont contribuer en fait en rentrant des données, mais qui vont être organisées selon une structure qui a été décidée par la bibliothèque ou par l'institution. Il va y avoir une protection de la base de données, mais c'est le producteur de la base qui va avoir la protection, et le producteur de la base, c'est celui qui a mis les fonds, qui a investi en réalité. Donc du coup, quand je vais sur une banque, sur le site d'une banque d'images, on est clairement sur des bases de données, et donc typiquement, comme j'ai une, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, finalement ça recoupe un peu la question de tout à l'heure, comme j'ai créé une base de données, j'ai le droit de soumettre l'accès et l'extraction des données contenues dans ma base à redevance ou à interdiction ou à ce que je veux, enfin à des conditions que j'autodétermine. Mais ensuite, si j'autorise des tiers à rentrer des données dans cette base et donc à venir compléter ma base de données, le tiers n'a pas de droit particulier sur la base de données, il n'a pas de droit particulier sur cette donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas propriétaire de la donnée. Une donnée, c'est une information brute en tant que telle. La seule chose qui sera protégée, c'est moi, j'ai produit une base de données. Dedans, on trouve donc un certain nombre d'informations que l'on peut réutiliser ou extraire, et que pour ça, j'ai le droit de le soumettre à redevance ou à autorisation. Mais donc c'est le producteur qui aura les droits. C'est pas la personne, moi particulier, qui complète cette base. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas un droit sur cette donnée. Par contre, je vais sur une banque d'images, et cette banque d'images m'autorise effectivement à compléter des données bibliographiques ou n'importe quel type de données par rapport à un fichier. Moi, cette donnée, je l'ai insérée volontairement. Mais cette donnée, je l'ai d'ailleurs. Donc ce que peut interdire le producteur de la base, c'est l'extraction des données contenues dans sa base. Mais moi, je ne l'ai pas extraite de sa base. Donc cette donnée, je l'ai mise dans sa base et je pourrais la mettre dans une autre base sans qu'il me l'interdise. D'accord ? L'acte qui est contrôlé, c'est l'extraction et la réutilisation de la donnée extraite. Donc ce qu'il peut interdire, c'est à une autre personne de rentrer dans cette base, de télécharger le fichier illicitement, de le prendre et d'en faire autre chose. Mais moi qui suis, entre guillemets, détenteur de cette donnée, j'en fais ce que je veux. Et il n'y a pas de propriété de la donnée. Je ne suis pas propriétaire d'une donnée. Et ça, il y a eu pas mal de questions en jurisprudence pour reconnaître la propriété d'une information. En fait, la question s'est beaucoup posée autour de la question du vol, puisque une donnée peut avoir une valeur, évidemment, en tant que telle, mais bien souvent, ce n'est pas une donnée qui a une valeur. Bien souvent, c'est des données colmatées les unes aux autres. C'est rarement une donnée toute seule. Et du coup, on s'en est très souvent sorti par les bases de données. Et la question s'est posée lorsqu'on avait affaire au secret des affaires. Donc parfois, il y a des données qui, effectivement, savoir quel est le prix que vos concurrents vendent tel bien, ça c'est une donnée, mais c'est une donnée qui peut être essentielle dans le domaine de la concurrence. Et donc on s'est demandé comment les protéger. Et en fait, on l'a protégée par des droits qui relèvent du pénal, donc qui n'ont pas grand-chose à voir avec la propriété intellectuelle, et qui va être la protection du secret des affaires, la protection du savoir-faire, et de dire que quand on a des informations pour lesquelles une entreprise ou un particulier a manifesté la volonté de les conserver secrètes, donc par tout type de mesures, les mettre au coffre-fort, les mettre sur un intranet où il n'y a pas de diffusion à l'extérieur, etc. Et que pour y accéder, je suis obligé de commettre un acte illicite, donc introduction frauduleuse dans une base de données, infraction pour rentrer dans des locaux, etc. Et ben toutes ces données-là sont protégées, mais elles ne sont pas protégées parce que j'en suis propriétaire, elles sont protégées parce que je les ai conservées secrètes et que le seul moyen d'y accéder, c'est de violer un droit fondamental qui est de rentrer chez moi par effraction. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas de propriété sur la donnée. Si demain je décide de la rendre publique, je la perds cette donnée. C'est parce que j'ai voulu la conserver secrète qu'elle est protégée. Et la question s'est posée au niveau du vol d'informations. C'était les tout débuts de l'informatique, quand effectivement vous aviez des salariés qui partaient avec des CD-ROM sur lesquels ils avaient enregistré des tas de données de l'entreprise, et des données qui étaient souvent des données essentielles pour économiquement. Et on s'est demandé si on pouvait invoquer le vol d'informations. Donc au départ on a dit non, le vol c'est forcément d'abord un vol matériel. Je ne peux voler que quelque chose que je peux toucher. Et donc on a invoqué le vol de la clé USB. Sauf que le vol d'une clé USB, c'est ce qui est dedans qui est intéressant. La clé USB en lui-même, c'est 5 € au Monoprix. Et donc, du coup, ben, ça, en fait, ça marche pas. Donc, il y a eu quelques arrêts qui ont reconnu le vol, mais aujourd'hui, on est sur la soustraction frauduleuse d'informations essentielles. Donc, on passe, en fait, par le secret des affaires, la confidentialité, etc. Mais on n'a jamais, et la jurisprudence n'a jamais reconnu, la notion de propriété d'une donnée. Il n'y a pas de propriété sur une donnée, en tout cas brute. Donc, c'est des tas de choses autour qui vont vous permettre de revendiquer des droits différents, mais c'est pas là, sur la donnée en tant que telle. Voilà.
Bien, l'heure tourne. Alors, je crois qu'il est temps d'inviter l'orateur suivant à nous rejoindre. Je voudrais remercier très vivement Maître Géraldine Salor pour cette présentation extrêmement intéressante et stimulante.